Merci d'être avec nos amateurs de sport. Une excellente fin de semaine, tout le monde. Beaucoup, beaucoup d'événements sportifs sur nos zones à surveiller. Je vous en parle un petit peu plus tard. Mais retrouvons tout de suite Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Commençons notre conversation ce soir en soulignant le décès de l'ancien... En fait, le titre de commissaire n'était pas arrivé encore, mais l'ancien président de la Ligue nationale, John Ziegler. Je pense que c'est avec Bettman que le titre
oui,
de commissaire est arrivé.
Là, exactement, quand Bettman a pris les commandes du circuit en 1993. On a fait comme dans les autres circuits professionnels majeurs. On a changé la structure. On a appelé ça un commissaire avec beaucoup de pouvoir. Mais dans le temps de John Ziegler, c'était un président. Écoute, Mario, l'annonce de cette nouvelle-là aujourd'hui, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que ça m'a replongé dans une époque où le hockey était différent. Une époque que j'ai suivie de deux façons. D'abord, au début, fin des années 70. Lui, il est arrivé comme président de la Ligue nationale en 1977. Donc, cette période-là où je suivais ça comme un jeune homme grandissant à Québec, très intéressé par les affaires du hockey. Et à partir du milieu des années 80, comme journaliste, où j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui poser des questions à quelques reprises. Et je pense que quand on pense à John Ziegler, évidemment, ce qui revient en tête, c'est la fusion de la Ligue nationale et de l'Association mondiale de hockey en 1979. Fusion qui a permis aux Nordiques de Québec, aux Oilers d'Hartford, les Jets de Winnipeg et les Oilers d'Edmonton d'accéder à la Ligue nationale. Ça faisait tellement longtemps qu'on y pensait, qu'on négociait. Clarence Campbell, qui a été président de la Ligue nationale de 1946 à 1977, là, 31 ans, était viscéralement opposé à toute idée de fusion. Il voulait certainement rien savoir de villes comme Québec et Winnipeg dans la Ligue nationale. Il trouvait que c'était des marchés trop petits. Et quand il est parti, ben, ça crée peut-être une bouffée d'air pour permettre à cette idée-là d'aller de l'avant et de mettre fin à la guerre dans le hockey qui faisait des victimes au niveau des équipes dans les deux ligues.
Oui, et d'ailleurs, on a souligné ça, l'aspect que... Lui, il a perdu son travail à cause du conflit de travail, hein, dans le fond.
Oui, ben, c'est ça. En fait, en 1992, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une grève des joueurs qui a été déclenchée juste avant le début des séries éliminatoires. Oui. C'était le 1er avril de mémoire. Ça a duré une dizaine de jours. Et là, on a pensé peut-être que les séries éliminatoires n'auraient pas lieu. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on se demande parfois hey, pourquoi la convention collective de la Ligue nationale, elle se termine le 15 septembre. Pourquoi? Ben, c'est justement pour ça. Parce que les équipes de la Ligue nationale ne veulent plus être prises à la gorge par les joueurs qui avaient le potentiel à l'époque de déclencher un conflit de travail juste avant le début des séries éliminatoires. Alors évidemment, le rapport de force était tout en faveur des joueurs parce que les joueurs
avant
ne
le début
sont
des
pas
séries
payés.
Ou de la saison, Philippe.
Aujourd'hui c'est avant le début de la saison.
La saison, ok, ouais, c'est à cause de ça. Okay, excuse-moi.
Ben oui, c'est à cause de ça qu'on a changé. Avant, on voulait pas revivre cette situation où les joueurs pouvaient déclarer la grève le 1er avril. Tu sais, le 1er avril, les joueurs ils sont plus payés de toute façon du jour après parce que les séries éliminatoires commencent. C'est l'argent des propriétaires, les profits des séries dont on menaçait de les priver. Alors, ça donnait le gros bout aux joueurs dans les négos. Alors, c'est comme ça qu'on a changé un peu. Mais c'est vrai que cette grève-là n'a pas duré très longtemps. Elle a duré une dizaine de jours. Le militantisme des joueurs était quand même assez modeste. Mais ça a fait mal à la présidence de Ziegler. Mais il était là quand même depuis un bon moment. Moi, il a quand même présidé à une période qui a été plus facile, plus profitable pour la Ligue nationale que la décennie précédente. Parce que les plus jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, Mario, là, tu sais, on pense aux années 70 dans la Ligue nationale de hockey, puis dans l'AMH. Puis on se souvient uniquement des beaux moments, les quatre Coupes Stanley du Canadien en 76, 77, 78, 79. Les gens de Québec, la Coupe AFCO des Nordiques en 77. Les grands joueurs qui ont marqué l'époque, Guy Lafleur qui brillait de tous ses feux. Mais à quelque part, ça n'a pas été une super décennie pour le hockey. Ça a été la décennie de la violence aussi dans le hockey. Ça a été terrible. Les bagarres qu'il y avait, c'est des bagarres générales à n'en plus finir. On n'était pas capable d'enrayer ce problème-là. Ce fut aussi la guerre dans le hockey entre les deux ligues qui a fait que les équipes déménageaient. Il n'y avait pas de stabilité. C'était très dur. C'était pas une belle période de ce côté-là. Et ça a été vraiment la fin du règne de Clarence Campbell. Et quand Ziegler est arrivé, une fois qu'il a mis la fusion s'est faite, je pense que ça assainit, ça a apaisé les choses et ça a permis à la Ligue nationale de prospérer tout en ayant sa part de problème. Là, on n'a pas réglé le problème de la violence du jour au lendemain. Le Vendredi Saint de 84 le rappelle bien, mais il en reste pas moins qu'on a fait des avancées très intéressantes.
Je t'amène sur un autre sujet. Enoch Mwamba, en entrevue avec nous cette semaine, a fait allusion au fait que l'entraîneur Mike Sherman a dit aux joueurs lors d'une réunion qu'il serait de retour la saison prochaine. Ouais. Or, moi, je peux pas te garantir que Mike Sherman va être de retour la saison prochaine. Premièrement, et je vous invite à écouter tout à l'heure la discussion qu'on aura avec Mathieu Proulx et Bruno Eppel, parce que l'homme le moins populaire dans cette équipe-là, c'est pas Johnny Manziel, c'est le coach. C'est ouais. le coach Sherman. Et si Reed utilise le même processus qu'il a utilisé pour se débarrasser de Jacques Chapdelaine, c'est-à-dire consulter les joueurs, Sherman va diriger son dernier match dans 2 semaines.
Ouais, ben écoute, on
Qu'est-ce
verra bien ce qu'il
va.
Ben moi, je suis allé hier à l'entraînement des Alouettes et puis la question lui a été posée à Mike Sherman, puis il a dit que dans sa tête, ça n'a jamais été question de venir à Montréal pour une seule saison et puis après de s'en aller. Mais écoute, il y a la fiche de l'équipe qui est absolument désastreuse pour une 4e saison consécutive. Les Alouettes qui ratent les séries éliminatoires, c'est faut le faire quand même là, dans une
ligue
où 6 équipes sur 9 participent aux séries à chaque année. Et c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Je pense que Sherman n'a pas rempli ses promesses. Le directeur général, Kavis Reed, certainement pas lui non plus. Et là, il va falloir que les Alouettes, à quelque part, vraiment se posent des questions. Est-ce qu'ils vont accepter ça encore longtemps, là, que sur le plan sportif, les résultats soient aussi désastreux? Combien de temps, Mario, ça va prendre?
Puis au plan économique, comment
oui,
millions
voilà.
qu'ils veulent perdre, messieurs Wittenhall? Tu sais, ils sont bien, ils signent le chèque, ils ne demandent pas d'argent à personne. On ne peut pas rien dire, mais il n'y aura pas plus de détenteurs d'abonnement de saison la saison prochaine, de manière que ça va là, Philippe.
Voilà, puis il faut que tu redonnes l'espoir. T'sais, on le dit, on le répète, mais le sport professionnel, c'est une business qui est fondée essentiellement sur l'espoir. Il faut qu'en début de saison, les partisans croient que l'équipe est capable d'accomplir quelque chose de bien. Ça ne veut pas dire qu'on s'attend, qu'on mais pense non. que
Comme le
c'est le championnat.
Cette année,
ben, c'est ça, exactement. Il y a un pas dans la bonne direction, puis l'ambiance est meilleure que celle de
exact.
L'an dernier, parce que les fans croient quelque part que dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, l'équipe va être meilleure. Est-ce qu'on est capable de dire ça à propos des Alouettes aujourd'hui?
Ils nous ont vendu ça en début de saison. C'est-à-dire que c'était un nouveau plan de 3 ans.
Ben,
mais tu sais, parce qu'il en a un, en tout cas, regarde.
Et ils en ont vendu beaucoup, des
ils
nouveaux
en ont
plans
vendu,
au cours des dernières années.
C'est
moi,
j'ai assisté
à toutes les conférences de presse de fin d'année là, où on a annoncé des nouvelles structures, on a annoncé des nouveaux entraîneurs, on a annoncé que cette fois-là, le plan était concret, puis les erreurs qui avaient été commises dans le passé, on avait appris de ça, puis là, on allait de l'avant, puis que les amateurs n'avaient pas souffert pour rien en voyant leur équipe incapable de gagner leur part, une part conséquente de matchs dans les années précédentes. Mais là, ce n'est pas le cas. Malgré toutes ces promesses-là, il n'y a absolument rien qui se produit. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant et désolant. Puis je vais aller même plus loin que ça. Je trouve ça triste. Tu sais, les Alouettes,
ça,
Mario, là, c'est une grande équipe. Là.
On
grande
les a déjà perdus, Philippe. Ben, on
voilà.
les a déjà perdus.
Ouais.
On va t'y
reprendre
une autre fois? Ou?
Ben, tu sais, faut espérer que non. Mais tu sais, ça, c'est aussi, c'est tout l'avenir de la Ligue canadienne. On sait qu'à Toronto aussi, c'est difficile. Alors, quand tu as 2 grands marchés dans une ligue comme celle-là, Toronto et Montréal, où il y a des ennuis, où les gradins ne sont pas remplis, c'est sûr que c'est inquiétant pour une ligue. Ça fonctionne plutôt bien dans l'Ouest canadien. C'est clairement plus difficile dans l'Est.
C'est le moins intéressant des matchs disputés par nos équipes en fin de semaine. Demain, Boston canadien, ça devrait être très intéressant.
Oui.
Toute une équipe, les Bruins. Et dimanche, ben, l'Impact, avec en parallèle un œil sur Columbus, Minnesota. Philippe?
Oui, tout à fait. Donc, rencontre décisive pour l'Impact, mais tout le monde aura l'œil sur le tableau des résultats à l'étranger en même temps, parce qu'on sait très bien que ça prend une victoire de l'Impact, mais il faut aussi que Columbus ne gagne pas dans son match contre Minnesota. Donc, ça va être assez intéressant, les 2 rencontres qui se jouent en même temps. Donc, une fin de saison très, très intéressante à surveiller. Puis pour le Canadien, juste avant de parler du match de samedi contre les Bruins, je veux juste revenir sur la rencontre d'hier rapidement contre les Sabres.
Bien
de
sûr,
on
bien
a
sûr.
Tous parlé, Mario.
Performance cette année.
Ouais, de la moins bonne performance, puis des punitions, puis est-ce qu'Armia méritait sa punition en fin de match? Oui, non, puis bon, etc. Mais je trouve que dans tout ça, il y a une chose qu'on a passée sous silence. C'est que moi, ça fait 3-4 ans là, qu'on voit jouer tout le monde là, les Sabres de Buffalo.
Ben, ils sont meilleurs cette année.
Et que ça t'a pleuré d'ennui. Mais là, cette année,
ben oui.
c'est autre chose. Là.
Ben oui.
Écoute, ils étaient dangereux, puis en supériorité numérique, c'est une équipe très solide. Dallin, on voit qu'il va devenir un grand joueur dans la Ligue nationale. C'est clair que Skinner apporte un punch offensif qui n'était pas là auparavant. Je pense que ça enlève de la pression aux autres éléments offensifs, donc ils viennent par le fait même meilleurs. Alors, tu sais,
ils sont débarrassés d'un gros joueur, Kane, qui n'est pas dénué de talent, là.
Ouais.
Mais Skinner vient remplir la chaise en alignement.
Ouais,
il y en a eu plusieurs changements, puis ça semble leur sourire avec Eichel.
Ouais.
Non, clairement,
ça, c'est
une meilleure
fun.
Position. Il était premier sa rondelle hier après un départ lent. Après ça, ils ont dominé le match.
Oui, puis Eichel, c'est temps qu'il devienne lui aussi
oui.
un joueur plus dominant. Tu sais, on parle de Drouin, là, mais mais Eichel, lui, c'est un joueur qui était supposé porter cette concession-là sur ses épaules et manifestement, il ne l'a pas fait encore. Alors, donc, attention au sable là, cette année. Ce n'est plus les sables des dernières années. Puis là, pour le Canadien, c'est sûr que demain, c'est l'occasion de montrer que l'équipe est capable de rebondir après un match difficile. Donc, j'ai hâte de voir l'état d'esprit des troupes, mais contre Boston, qui est une solide équipe, ça va être très, très, très difficile.
Oui, les Bruins avec Pasternak, là, ça, c'en est un autre. Ça, c'est un gars, c'est un choix tardif de première ronde, hein, Pasternak. Il avait été choisi, si ma mémoire est bonne, juste avant Tenordi, mais lui, il va postuler, là, meilleur buteur de la Ligue avec Sequoia, avec un autre. Il y en a 10 déjà, là.
Oui, puis t'as tellement raison de le mentionner, Mario, parce que, tu sais, on parle beaucoup de on va parler de Patrick Lane, on va parler, bien sûr, de McDavid, de Matthews, de toutes les jeunes stars de la Ligue nationale. Puis lui, il passe un petit peu sous le radar, là, dans les conversations, mais c'est tout un joueur de hockey,
que si, m'a dit dire une affaire, je le prendrais dans mon équipe. Oui, puis tu vois, son année de repêchage, 25e au total. Il y en a des bons joueurs, des fois, c'est pas un cas unique, là. Juste avant lui, sais-tu, cette année-là, Montréal avait repêché. Ah, c'est Sherbach. Sherbach repêchait après les Bruins. Pasternak a pris 25e. Ben, bonne fin de semaine de sport et d'autres choses.
Ça va être intéressant, hein?
Merci, ben oui. C'est sûr. Encore bien de la matière pour lundi. Ben oui. Troisième match ce soir. On parle football au retour. Salut. Et Daniel Brière après la pause. Salut, Phil.